Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'unité espagnole, à quel prix ? Retour sur la crise catalane avec un partisan de l'unité, l'écrivain péruvien et espagnol, Mario Vargas Llosa, de passage à Paris pour une grande conférence, ce jeudi au Collège de France. Au lendemain de la déclaration d'indépendance de la Catalogne, le prix Nobel de littérature avait pris la parole contre la conjuration séparatiste et une passion nationaliste jugée destructrice. Ses arguments, ses convictions, on en parle après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, l'amour bourgeois, façon Yasmina Reza, prix Renaudot l'an dernier avec Babylone, révélé au théâtre avec Art en 94, multiprimé. La romancière dramaturge revient au théâtre avec Bella Figura jusqu'au 31 décembre au Rond-Point et part à la recherche de l'amour perdu. Elle est tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr. Reza suspend son vol.
La grande table. Olivia Gesbert.
Ich bin ein Berliner, une première vie berlinoise pour cette pièce écrite pour la Schaubühne, montée par Thomas Ostermeyer avec Nina Hoss, dans le rôle titre repris par Emmanuel Devos dans sa version française. Mise en scène par notre invité, un homme et sa maîtresse sur un parking. Il l'emmène dîner dans un restaurant qui lui a été conseillé par sa femme, engueulade. Il croise sur la place un autre couple dont la femme est la meilleure amie de l'épouse, malaise. Ainsi va de Bella Figura. Yasmina Reza, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Les Allemands, est-ce qu'ils badinent avec l'amour comme nous, les Français ? Est-ce qu'ils ont la même conception des jeux amoureux que nous ?
C'est difficile de répondre parce que je ne connais pas tellement... j'ai pas d'expérience amoureuse en Allemagne, si vous voulez, donc je ne...
Non mais vous avez une expérience d'écriture maintenant pour les Allemands, parce que cette pièce a d'abord été quand même écrite aussi en pensant à cette commande, ce souhait de Thomas Ostermeyer pour vous.
Oui, oui, non, mon travail est très souvent vu en Allemagne et j'ai eu en effet pas mal de commandes et pas mal de pièces créées d'abord sur ce territoire. Il est vrai que mon travail est très bien reçu en Allemagne, mais j'ai pas l'impression que pour le reste ou pour Bella Figura qu'il s'agisse de badinage en réalité. C'est une conception assez sombre. On rit de temps en temps, mais la pièce est plutôt... plutôt sombre, plutôt pas désespéré, j'irai pas jusque-là, mais offre un sentiment de grande mélancolie, à mon avis.
Alors je retire Musset, est-ce que les Allemands aiment et souffrent comme nous, vous pensez ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez intégré dès l'écriture de la pièce, cette idée que peut-être les relations hommes-femmes ne sont pas les mêmes partout, ou au contraire, que nos petites souffrances, nos égoïsmes, nos élans sont universels, en tout cas dans la manière d'être vécu, peut-être qu'on les traduit différemment dans la vie ?
Il y a forcément un universalisme du sentiment passionnel. La culture y est pour beaucoup quand même. Dans les sociétés qui sont les nôtres et qui peuvent s'étendre, quand je dis les sociétés qui sont les nôtres, je vais jusqu'aux Chinois, c'est-à-dire les sociétés qui sont construites sur des modèles très structurés et où l'amour s'est structuré sous forme de couple, de famille. Là, je pense en effet qu'il y a un modèle commun et que la passion se vit de la même façon. Je suis moins sûre que ce soit vrai dans des sociétés très différentes.
Les unes après les autres, vos pièces ont fait écho dans les plus grands théâtres publics européens, comme vous racontez la partie avec Cartonnet, déjà au Deutsches Theater de Berlin. Et il n'y a pas qu'outre-Rhin que vous êtes aussi une auteure, dramaturge, célèbre et populaire. Peut-être parce que, comme vous l'évoquez, derrière les problèmes de riches se nichent aussi des solitudes qui, elles, sont universelles. Est-ce que traduire l'indicible dans toutes les langues, qui plus est, Yasmina Reza, c'est aussi le rôle de l'écrivain pour vous ?
Mais moi, je voudrais revenir sur ce que vous dites, parce qu'il y a des choses qui me déplaisent, non pas dans ce que vous dites, mais qui sont véhiculées constamment comme un cliché, derrière les problèmes de riches. Moi, j'ai pas du tout l'impression de traiter les personnages, dans rien de ce que j'écris, qui soient des problèmes de riches. D'abord, les gens les gens qui sont traités par moi sont pas spécialement riches, même souvent ont des problèmes d'argent. C'est une bourgeoisie très moyenne, voire même pas du tout une bourgeoisie, comme c'est le cas d'Andrea ou de Jean-Lino Manuscrivi dans Babylone. Et là, je cite les deux dernières choses que j'ai faites. Je suis toujours très gênée quand on dit bourgeois, quand on dit, et là, tout à coup, moi, je me suis toujours tue à ce sujet. Et là, c'est comme s'il y avait la goutte qui faisait déborder le vase. J'ai plus envie de me taire là-dessus.
Je veux bien être la goutte. Donc, vous parlez de tous à tout le monde.
Non plus. J'ai pas non plus cette prétention de parler de tous à tout le monde. Je veux dire, je n'aime pas la classification. Je propose un objet, il est ce qu'il est, mais il ne rentre pas forcément dans la case bourgeoise, classifiée. Moi, je sais pas répondre de façon sociologique aux questions. J'ai pas de clé sur ce que j'écris, et en tout cas, aucune clé sociologique.
Alors, c'est vrai que c'est moins le cas, là, dans Bella Figura. Hein, si on parle de cette pièce qui est en ce moment sur la scène du rond-point, c'est moins le cas pour Andrea, qui est pharmacienne et encore commis de pharmacie.
Oui, elle est commis. C'est une employée.
C'est une employée de là-bas. Boris, il avait son entreprise, mais il est pour l'instant en phase de déclassement.
Voilà. Une entreprise de miroiterie, c'est pas non plus problème de riche, vous voyez ce que
C'est un peu plus le cas pour Françoise et pour Éric, qui représentent quand même une certaine France, à leur manière aussi.
Oui, voilà, il y a une diversité, disons, d'appartenance sociale dans la pièce, mais elle n'est pas uniforme.
Alors, on en écoute un extrait, et puis on continue à en parler, plus justement, j'espère.
Tu vas appeler un taxi d'ici ?
Je te raccompagne.
Non.
Sois raisonnable.
Non, ne touche pas !
Non, mais est-ce que tu réalises à quel point tu occupes l'espace, Andrea ?
Laisse-moi !
Tu satures l'atmosphère avec tes humeurs et ta cinglerie. Mais qui a voulu rester ici ? Qui s'applique à pourrir la soirée de gens qui n'ont rien demandé.
Où est mon sac ?
Il est là, maman.
Où est-ce qu'il soit ? Tu nous emmerdes avec ton sac !
Pourquoi tu me sacrifies ?
J'ai pas envie de foutre ma vie en l'air. Je suis pas capable de faire ton bonheur, Andrea.
Qu'est-ce que c'est que cette phrase imbécile ? D'où sort cette phrase ?
Qu'est-ce que tu fais ?
La trouille, hein ?
Un peu. Andrea, repose ce couteau.
Posez ce couteau, Andrea !
Et coupe pas ! Tu peux pas me poignarder avec un couteau à poisson.
Shalom !
Vas-y, dépaisse-moi.
Celui-là est mieux.
Cinglé, toi aussi.
Les personnages de Bella Figura et Yasmina Reza, qu'est-ce qui les retient d'être heureux ? Qu'est-ce qui les retient de faire le bonheur de l'autre, comme on l'entend dans cet extrait, dans cet échange entre Boris et Andrea ? Qu'est-ce qui les retient peut-être tout simplement de jouir de la vie, au sens premier du terme ?
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui nous retient de jouir de la vie en général ? C'est peut-être la chose la plus difficile du monde, le carpe diem. Savoir être heureux ici, maintenant, tout de suite, de profiter de l'instant, c'est une presque une malédiction de l'homme de ne pas avoir cette capacité-là à saisir l'instant. Je crois qu'on est maudit par le souci. Moi, j'ai toujours traité des personnages qui étaient très dans la grande difficulté de, non pas de jouir, mais de, oui, d'être heureux, d'être apaisé en tout cas.
Prenons, si on prend le cas de Boris, le mari, qui ne comprend pas la réaction disproportionnée d'Andrea, sa maîtresse, alors qu'il a fait l'effort, dit-il, de l'emmener au restaurant. Qu'est-ce qui peut bien faire qu'il ait été prescrit par sa femme, ce restaurant ? Il ne sait pas comment réagir. Il lui apprend ça, elle découvre ça et ça gâche ce moment. Comment cet événement indélicat, c'est-à-dire tout simplement le choix du restaurant, va servir de détonateur dans la pièce ?
Mais il faut venir voir la pièce pour le savoir.
Alors on n'en parle pas.
Mais c'est-à-dire, pardon, mais moi j'ai beaucoup de mal à commenter ce que je fais. Je n'ai pas.
Et raconter peut-être.
Mais même à raconter, parce que c'est d'abord il y a rien à raconter et à commenter. Je ne vois pas l'usage du commentaire sur l'écriture même. Le commentaire n'ajoute rien ou ajoute un mensonge. Il y a toujours de la. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas juste quand on commande, parce qu'on ne donne qu'une direction. On éclaircit quelque chose qui n'a pas le devoir impératif d'être éclairci, parce que la belle création, c'est celle qui va dans l'obscur, dans des directions différentes, qui posent des questions elles-mêmes, où il n'y a pas de réponse. Et moi, je ne veux pas, à côté de ce que je produis, donner des réponses qui seraient, que je regretterais dans la minute, surtout.
On a le sentiment quand même qu'avec vous, Yasmine Ressa, les apparences sont souvent trompeuses et que vous réussissez ce tour de force de faire spectacle sur l'idée de ne pas se donner en spectacle. Et là, on revient au titre de la pièce, Bella Figura. Boris, je raconte un petit peu, pardon, quand même.
Mais vous,
sa boîte,
vous, ça
m'a le droit de raconter, de donner quelques éléments. Il finit par espérer, lui, inspirer à Andrea, sa maîtresse, un peu de pitié, voire de compassion, peut-être tout simplement. Il a d'autres problèmes en ce moment. On l'évoquait, sa boîte est en train de couler, et Andrea lui rétorque, un peu amère, en tout cas pas dupe, un homme qui coule a intérêt à couler en silence, tu sais. Et là, ça nous renvoie effectivement à tout ce jeu d'apparence dans lequel on est peut-être pris, malgré nous, en permanence, sous l'apparence du calme aussi. Ça nous renvoie à ces tempêtes qui grondent à l'intérieur de nous. Est-ce qu'il vous arrive, vous, souvent, Yasmine Ressa, de faire bonne figure dans certaines circonstances, ou tout le temps?
Mais tout le temps. Je pense que cette formule de bella figura, bonne figure, c'est presque une philosophie de la vie en société. On est d'abord presque obligé de le faire, et si on n'est pas obligé de le faire, on a intérêt aussi quelquefois à le faire. Le regard des autres est très souvent cruel, ça c'est pas moi, c'est un cliché évidemment, mais il est vrai. Et il est cruel, non pas parce que les autres sont cruels, il est cruel parce que les autres souffrent aussi, et que dans la cruauté, on trouve une porte de sortie à une souffrance. C'est-à-dire, c'est un mixage très, très complexe, la relation humaine. Et bella figura est très protecteur. Il vaut mieux avoir l'air beau, riche et paisible que laid, en guenille et gémissant. Disons que on a plus de chance si on est dans la première catégorie, même si ça ne correspond absolument pas aux sentiments profonds. Et c'est souvent le cas de mes personnages. C'est-à-dire, ils sont dans des mensonges d'apparence qui, évidemment, s'effritent et se fêlent au fur et à mesure de la connaissance qu'on a d'eux.
Donc on fait belle figure à la fois par pudeur, aussi par
oui, il y a beaucoup
besoin
pudeur.
De se protéger
oui, bien sûr,
quelque
bien
part
sûr.
Du regard des autres. On revêt un masque. En écrivant, est-ce que vous avez le sentiment de vous dévoiler? Ou est-ce que c'est un autre masque, l'écriture?
Non, vous avez raison, j'ai le sentiment de me dévoiler quand même un peu, mais comme j'ai pris des masques avec des personnages, je suis protégée aussi. Et c'est pourquoi aussi, sans être désagréable, je ne veux pas me dévoiler à côté, vous comprenez, c'est pas c'est pour ça aussi.
Quand vous écrivez, pourquoi vous écrivez, est-ce que c'est comme Nathalie Sarraute, que je vous propose d'écouter, par besoin d'écriture?
J'ai l'impression que j'ai besoin de moments qui sont des moments de bouillonnement, des moments très intenses. Et alors, pour que ces moments se produisent, il faut quelque chose qui sème le désordre, il faut une crise, il faut que dans la paroi lisse de l'existence, il y ait un trou qui se produise tout d'un coup, une fêlure. Et alors, elle m'est nécessaire, mais je n'ai pas conscience ni du tragique, ni de la menace, ni de quelque chose qui serait beaucoup plus pénible que la vie que tout le monde mène. Tous ces mots ne m'effleurent même pas. J'ai l'impression que c'est comme ça, c'est là, et je ne qualifie jamais ça. C'est comme ça, et il faut pour moi que ça soit comme ça pour que je puisse arriver à couler ces mouvements dans une forme qui est assez de vibration, qui elle-même soit en mouvement. Et alors c'est pour ça que je m'attache à ces moments-là. Ce sont des moments de rupture, parce qu'évidemment quand tout va bien, ben, il ne se passe rien. Des moments où quelque chose d'insolite, et alors justement se produit, ce mot menace me met sur la voie, parce que en effet, ça doit être quelque chose de menaçant, parce que c'est quand quelque chose est menaçant qu'on commence à s'agiter, on regarde sous son lit parce qu'on a l'impression qu'il y a un voleur qui est caché sous votre lit, sinon on ne bougerait pas. C'est mon état quand je travaille.
Yasmine Ressa, est-ce que pour vous aussi, il y a la nécessité d'avoir des moments de rupture, des fêlures dans lesquelles peut-être tremper la plume, des fêlures dans comme le dit très joliment Nathalie Sarraute, cette paroi, ces parois lisses de l'existence. Est-ce qu'il n'y a que dans ces moments-là que vous parvenez à avoir ce besoin ou cette envie d'écrire, cet élan ?
Oui, je partage assez ce point de vue, le besoin de désordre, de fêlure et surtout du dernier mot, de menace. Et il faut se sentir un peu menacé pour être dans une belle activité d'écriture. Menacé par quoi ? C'est très difficile de le dire, mais c'est une menace profonde, peut-être même une menace de mourir, pas au sens physique du terme, mais de ne plus exister. Et l'écriture sauve de ce sentiment de non-appartenance à la vie. Enfin, je le formulerai comme ça pour moi. C'est créer de l'être alors que la vie ne vous en fournit pas nécessairement. C'est très étrange, mais en tout cas, il y a une menace, c'est certain, oui. On n'écrit pas en état de tranquillité, ni même, si tout, elle le dit très justement, si tout allait bien, si tout était parfait, je ne crois pas que l'écriture aurait pignon sur rue. Il n'y aurait rien qui la justifierait.
Et est-ce qu'on est tous habités d'une certaine manière par une petite menace ? Est-ce qu'on peut dire qu'on est tous des barbares aussi qui s'ignorent ? On a tous en nous ces petits monstres tapis dans leur fort intérieur, prêts à bondir, prêts à rugir, prêts à surgir, comme on les retrouve aussi, cette expression dans les personnages de la pièce, avec Andrea, avec Boris et avec les autres. C'est-à-dire de ce calme plat, on sent que tout à coup quelque chose sort du fond de leurs entrailles aussi.
Sur le « on a tous », je ne peux pas répondre. il se peut, oui, mais encore une fois, je ne suis pas sociologue ni psychologue, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment sont les autres. Moi, je sais comment je suis et comment sont quelques amis à moi, et voilà.
Je ne sais pas si c'est le propre de la condition humaine, mais c'est visiblement quelque chose qui est partagé. Parce que quand on lit vos textes, vos romans, quand on voit vos pièces, il y a quand même un sentiment d'identification qui se fait un peu pour tous et pour tout le monde. Je ne sais pas si vous écrivez aussi pour nous ou pas.
Si c'est le cas.
Vous écrivez aussi pour nous ou pas ?
Non.
Pour vous ?
Oui.
Et les mises en scène ? Parce que c'est vrai qu'ici, avec Bella Figura, vous retrouvez la mise en scène après le lieu du carnage et comment vous racontez la partie. On comprend un peu le processus d'écriture, d'où ça vient pour vous, cette envie d'écrire à un moment. Et la mise en scène, qu'est-ce que c'est ? C'est une étape supplémentaire ?
Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une écriture avec d'autres moyens. Et c'est un autre outil. Mais moi, j'ai pas l'impression de faire autre chose. J'ai l'impression de pouvoir délivrer la même chose, mais avec des aspects différents et des couleurs et du rythme et de la musique différente.
En tant que femme, vous appartenez à ce sexe-là, mais j'aime bien cette idée que vous avez exprimée une fois dans un entretien l'an passé. J'écris avec le sexe de l'écrivain, qui est un sexe de pouvoir et de puissance à propos d'écriture. C'est intéressant, c'est important pour vous, par moment, de changer de sexe, d'être ni tout à fait la même, ni tout à fait un autre, c'est-à-dire ni tout à fait tout le temps une femme, ni tout à fait tout le temps un écrivain. D'avoir ce sexe du pouvoir et de la puissance, comme vous le qualifiez.
Oui, je ne pourrais pas le dire mieux, c'est tout à fait juste, mais je le ressens assez souvent dans la vie, mais pas seulement dans l'écriture. Je sais bien que je suis dans un corps de femme, mais je ne me vis pas femme, enfin, je me vis être humain, sans penser spécifiquement que j'appartiens à une communauté sexuée.
C'est pas que l'écriture est un acte masculin.
Non, pas du tout. Je pense pas du tout que l'écriture est un acte masculin. Non, mais en effet, c'est un acte de puissance, c'est sûr. Mais la puissance n'est pas que masculine.
Elle est de tous les genres, si on décide de l'adopter. La metteur en scène et romancière Yasmina Reza est notre invitée jusqu'à 12h30 sur France Culture.
France Culture. La grande table. Olivia Gesbert.
Faut m'expliquer, Françoise. Faut m'expliquer ce que vous faites là avec maman à nouveau à Vachy et moi tout seul avec les frères et les cousins. Deux minutes. Deux minutes avec Serge Degrolle qui vient de se faire virer chez Unifret. Le pauvre. Et vous êtes encore là ?
Oui, je m'y plains.
plaît.
Tu veux pas manger, maman?
Manger, manger. Vous ne me parlez que de manger. Tu crois que j'ai que ça à faire?
Tu voulais manger des huîtres.
Laisse-la.
Je comprends pas cette soirée, Françoise.
Il n'y a rien à comprendre. Tout est déréglé. La soirée est déréglée. Je suis déréglée. Ta mère est déréglée. Laissez pas bien dire l'atmosphère à une température moyenne.
Qu'est-ce qu'on fait avec le plateau de fruits de mer?
On se fout du plateau de fruits de mer.
Il y a des oursins.
Qu'est-ce que vous avez avec les oursins? C'est pas la saison. Votre copain a foutu le camp.
Boris.
Passage.
Boris et le mari de Patricia.
Ça n'a plus l'air de gêner notre mesure.
Je vais chercher une bouteille fraîche.
Bonne idée.
Dans Bella Figura, à voir au rond-point jusqu'à la fin des cendres, on tend le temps, la soirée, pas uniquement le temps entier, est déréglé sous la plume et dans la mise en scène de Yasmina Reza, notre invitée jusqu'ici. On part dans la vie avec son petit Barda et on se fane sur place. La fuite du temps, elle est surtout incarnée par Yvonne, la belle-mère, qui se souvient de ce qu'elle était avant, une pin-up ancien régime, dit-elle, avec un peu de nostalgie, ou alors quand elle s'adresse à Andrea pour lui dire « Profitez de ces belles jambes, de ces jolies jambes que vous avez, ma chère, avant que le corps n'impose ses lois lugubres. » Elle dit aussi « Ce qui m'embête avec la mort, c'est que les gens continuent à vivre comme si de rien n'était. » Il faudrait pouvoir s'arrêter, il faudrait pouvoir arrêter le temps pour vous, Yasmina Reza.
Mais il faudrait pouvoir arrêter le temps. Non. Ah non, c'est ça qui est beau, c'est qu'on est dans une temporalité. Je peux même pas imaginer la vie sans l'idée même qu'on soit de passage, ni même dans l'instant. C'est notre tragédie, mais c'est aussi ce qui fait notre splendeur. Tout l'art provient du fait qu'on se sait éphémère et qu'on cherche à laisser la plus belle chose possible. Donc, non, il ne faudrait pas pouvoir arrêter le temps. Non.
Il n'y a pas de nostalgie pour vous, de mélancolie? Il y a le sentiment...
mélancolie, oui. Nostalgie, pas tellement.
Qu'est-ce que c'est la différence?
Mais une énorme différence. Non, ça n'a rien à voir. C'est deux choses très différentes. Et il peut y avoir de la nostalgie dans la mélancolie, mais la mélancolie est un état beaucoup plus vaste que la nostalgie. La nostalgie a vraiment à voir avec le temps.
Il n'y a pas de fuite en avant pour vous? Avec le temps, on construit aussi, on s'enrichit des expériences qu'on a pu avoir.
J'adore ce « on » que vous mettez, c'est-à-dire tout à coup, vous me demandez de philosopher de façon générale.
Vous préférez que je dise le « vous » ?
Oui, oui. Non, oui, parce que... Ben, j'en sais rien. Non, franchement, je ne peux pas
répondre. C'est peut-être un masque, en fait, ce « on ». C'est pour ne pas vous obliger à être dans quelque chose de trop personnel, puisqu'on parlait de pudeur et d'impudeur tout à l'heure, ne pas vous forcer à vous dévoiler trop. Mais peut-être, à travers ce « on », on arrive à cacher un peu quelque chose. Mais je veux dire le « vous », alors, maintenant.
Oui, peut-être que je répondrai de la même façon, d'ailleurs.
On vous dit... pratiquante d'un théâtre des paradoxes, je ne sais pas si vous aimez cette définition, en tout cas c'est sûr que ce théâtre que vous mettez en scène est plus révélateur de paradoxes que d'illusions. Il semblerait que vous n'en ayez plus aucune, mais ça reste encore à démontrer. Peut-être que ce n'est pas l'amour qui est pour vous porteur de ces illusions. Est-ce qu'il y a d'autres matières aujourd'hui dans la vie qui continuent à vous faire rêver, espérer?
Mais plein.
Qu'est-ce qui est source d'idéaux pour
Mais
vous?
Tout, même l'amour. Il n'y a aucun champ pour moi qui serait rentré dans celui de la désillusion. Aucun, non, non.
Même pas le couple.
Le couple, j'ai tapé dessus, tenté plus, mais c'est toujours très intéressant le couple.
Pourquoi? C'est un punching ball,
parce que c'est
plus facile.
C'est un puits de névrose. C'est un champ d'exploration romanesque, théâtral, sans limite, sans fin. C'est un petit laboratoire des folies. Mais pour autant, on peut être extrêmement heureux aussi à l'intérieur d'un couple par instant. Donc c'est... Il n'y a pas de vérité simple ou lisse, c'est pas vrai.
Et à propos de Champ de névrose, que l'on retrouvait dans Heureux, les heureux, votre roman qui était un autre procès, entre guillemets, à charge contre le couple, dont Emmanuel De Vos avait d'ailleurs fait une lecture à l'Odéon à l'époque. Pourquoi elle? Pourquoi vous l'avez choisie, elle, pour incarner ce rôle d'Andrea? Est-ce qu'elle pouvait incarner à sa manière ce Champ de névrose de manière beaucoup plus humain? Il n'y a pas une douceur qui se dégage d'elle ou ce grain de folie? Qu'est-ce qui a retenu votre attention
Simplement, c'est une actrice que j'aime depuis toujours beaucoup. On n'avait jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et quand l'Odéon et Le Monde, et France Culture m'ont proposé de faire cette soirée, j'ai pensé tout de suite à elle. Et comme elle a lu admirablement les textes, on a eu envie toutes les deux de continuer. Et Bella Figura, moi, quand je l'ai écrit, je pensais déjà à elle dès l'origine.
Tu es malheureux ? Demande un moment Andrea à Boris. Non, je ne suis rien. Les banalités violentes du quotidien, extrait de Bella Figura.
J'aime bien cette Yvonne. Je m'inquiète pour elle. Elle m'a dit que je devais profiter de mes jambes. Ça veut dire quoi ? Les exposer ? Je passe ma vie derrière un comptoir. Boris. Tu trouves que mes jambes sont belles ? J'ai pas les genoux un peu adipeux.
Si.
C'est peut-être la chance de ta vie, cette catastrophe.
Ah ouais.
Ouais. Je vais m'ennuyer sans toi. Bon, je m'ennuierai un peu au début. Mais tu peux revenir me chercher quand tu seras devenu un vrai paumé. Peut-être que tu me trouveras encore à t'attendre bêtement. Peut-être que je me serai barbée avec les autres garçons.
Tu penses que je vais devenir un vrai paumé?
Non, je pense pas.
Je vais m'en sortir?
Qu'est-ce que ça peut me faire? A storm is threatening my very life today. If I don't get some shelter, oh, I'm gonna fade away. Children, it's just a shadow way, it's just a shadow way. Oh, children, it's just a shadow way, it's just a shadow way.
Kimmy Shelter, on se termine avec ce morceau qui a été composé, du coup écrit pour la pièce.
Oui, qui a été composé, qui a été adapté par Nathan Zanagar pour le spectacle et qui est dans un extrait d'un album qui s'appelle Continent Carnivore.
Et qui se trouve dans
les bacs de sortir
en ce moment.
Oui.
Voilà. Et qu'on peut entendre sur la scène du Rond-Point où se joue Bella Figura jusqu'au 31 décembre cette année. Je ne sais pas si la pièce va tourner, c'est déjà prévu.
On a déjà tourné l'année dernière.
Vous avez déjà tourné.
Oui.
Bon, alors pour l'instant, c'est Paris. À voir jusqu'au Nouvel An. Merci beaucoup à vous, Yasmina Raza.
Merci.